Salut à tous et à toutes, vous écoutez les Barricades Mystérieuses sur RTF 95,4 MHz ou peut-être sur le DAB+, ou peut-être en podcast sur le site rtflimoges.com. Je me suis encore renseigné sur l'origine de cette expression les Barricades Mystérieuses et on m'a dit que ces Barricades Mystérieuses, c'était peut-être les innombrables jupons des femmes qui étaient des barricades à l'usage des galants qui auraient été trop audacieux. Voilà, pourquoi pas, après tout. Alors, au sommaire de cette émission, comme on disait autrefois, de la musique classique et des livres. Alors, les livres, ce sont des livres très récents, puisqu'il s'agit du gros livre de Denis Oliven, Dictionnaire amoureux des Juifs de France. Et puis un livre très étonnant qui est le dernier livre de Patrick Modiano et de Christian Mazalay qui s'appelle 70 bis, entrée des artistes. Voilà, alors nous allons commencer par écouter une œuvre de Nino Rota. Alors Nino Rota, tout le monde le connaît bien sûr parce que c'est l'auteur de quantité de musique de films. Musique des films de Federico Fellini, musique du Parrain également, musique célébrissime, très belle musique, c'était un type qui avait un talent extraordinaire. Et bien sûr, comme la plupart de ces gens-là, il avait fait de très très solides études musicales classiques et il avait écrit également pour des concerts et pour des instruments qui lui étaient chers. Alors, je vous propose donc d'écouter le premier mouvement d'un concerto pour violoncelle et orchestre qui date de 1972 et qui est interprété ici par Silvia Chiesa au violoncelle et l'Orchestre symphonique national de la RAI.
Thank you.
Voilà, c'était donc ce concerto pour violoncelle et orchestre de Nino Rota. On voit que c'est quelqu'un qui a énormément de métiers. C'est une inspiration qui n'est pas très originale. Et pour ma part, j'apprécie beaucoup plus les musiques qu'il a écrites pour le cinéma et qui témoignent d'un sens de la mélodie prodigieux. Voilà. Bon, enfin, c'est quand même de la très belle musique. Et c'était interprété par... par Sylvia Chiesa au violoncelle. Alors, je vous propose d'écouter pour suivre une pièce, un impromptu de Franz Schubert. Franz Schubert, qui est mort à 31 ans, après une vie un peu difficile. Il dormait beaucoup chez des amis, il avait du mal à se faire publier, à se faire jouer. Il avait beaucoup été aidé, en particulier par Liszt, qui était une personne très sympa et qui lui gagnait énormément d'argent. Alors, je vous propose d'écouter cette pièce. Donc, interprété par Murray Peraya, on n'en entend plus beaucoup parler, mais il avait fait une intégrale des concertos de Mozart qui avait vraiment fait date. Voilà, donc c'est impromptu de Schubert. Thank you. Voilà, c'était cet impromptu de Franz Schubert, interprété par Murray Peraya, très connu et très très difficile aussi. Bon, en ces temps de flambée antisémite, en ces temps tout à fait étonnants et qu'on ne pensait jamais voir revenir, où l'extrême gauche en particulier et les filles est devenue presque ouvertement antisémite, sous le paravent commode de la Palestine. Et voilà, on redevient, l'antisémitisme redevient possible. On en a la preuve. Et alors justement, Denis Oliven, qui a été un grand patron, c'est un normalien, c'est un énarque, et il a été patron dans l'audiovisuel, il a été patron, directeur de l'Observateur, de Libération, d'Europe 1, de etc., etc. Et sa famille est très connue également. Il a écrit un dictionnaire amoureux des Juifs de France, et c'est ce livre que je voudrais évoquer pour vous aujourd'hui. Alors, c'est un dictionnaire, donc ça commence par A et ça finit par Z, bien sûr. Et alors, ça traite de quantité d'aspects des Juifs de France. Alors d'abord, depuis quand y a-t-il des Juifs, des populations juives en France? Eh bien, vraisemblablement, en tout cas en Provence, depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, il est vrai, on a retrouvé des traces archéologiques qui semblent montrer qu'il y avait des Juifs qui étaient sans doute arrivés avec les Romains et qui ensuite se sont établis. Et puis, ils sont venus là également après, pendant le Moyen-Âge. Alors, c'est une longue suite, les Juifs en France. Je dis en France pour faire actuel, parce qu'à l'époque, c'était différent, bien sûr. Mais c'est une longue suite de persécutions. Alors, ils ont été persécutés en Alsace, ils ont été persécutés partout, en particulier parce qu'ils exerçaient le métier d'usurier. Ils prêtaient sur gage, ou alors ils étaient banquiers. Et ils étaient banquiers et usuriers parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer un autre métier, ils ne pouvaient pas posséder de terre et ils ne pouvaient pas avoir de serfs chrétiens. Donc ils ne pouvaient pas être agriculteurs et donc ils étaient obligés d'être usuriers ou d'être prêteurs sur gage. Et de temps en temps, eh bien, ce qui ne s'appelait pas encore un pogrom. Et puis on brûlait les titres de dette et on expulsait les Juifs comme ça, ça atténuait les dettes. Voilà, c'est ça, jusqu'au moment où l'affaire Dreyfus, qui a causé dans toute la population juive d'Europe et pas seulement d'Europe, l'idée que la France était le pays, un pays où les Juifs étaient heureux comme Dieu en France. C'était leur formule, car un pays qui se mobilisait pour défendre l'honneur d'un petit Juif, eh bien, était certainement un grand pays. Et c'est vrai, il faut bien le dire. Alors, il y a eu aussi des endroits où les Juifs ont été protégés, par exemple ce qu'on appelait les Juifs du Pape. Alors dans le Comtat Venaissin, vous savez qu'il y a eu des papes qui ont régné en Avignon, dans le Comtat Venaissin, et donc il y avait des colonies juives que le Pape protégeait, et il avait défendu, il avait même menacé d'excommunication quiconque frapperait un Juif sans motif, et quiconque essaierait de lui voler quelque chose. Voilà. Et donc, ces Juifs s'appelaient les Contadins, et il y a eu un Contadin célèbre, c'était Fernand Contandin, plus connu sous le nom de Fernandel, qui s'est illustré ensuite dans le cinéma. Alors, les divers langages des Juifs français, alors il y a eu de plusieurs courants d'immigration depuis 80 et quelques après Jésus-Christ, la destruction du Second Temple, jusqu'aux révolutions en Russie, jusqu'au nazisme, où il y a eu quand même pas mal de Juifs qui sont venus en France, qui s'y sont établis et qui ont souvent été protégés. Les Juifs ont pas toujours, hélas, mais ont souvent été protégés, en particulier en Limousin, où dans le château de Montintin ont été hébergés Serge Gainsbourg et Marcel Mengel, plus connu sous le nom du mime Marceau. On apprend aussi la persécution contre les Juifs menée par le régime de Vichy, qui était quelque chose d'absolument abject. Juste un exemple, notre grande helléniste, Madame de Romilly, son vrai nom était Worms de Romilly. Et elle était née David, mais elle a épousé un Worms de Romilly. Donc en fait, elle n'était pas juive, mais son mari l'était, et ça a suffi pour la faire interdire d'enseignement. Bref, un livre formidable qui nous parle aussi de l'école de peinture de Paris avec Modigliani, Soutine, avec des musiciens comme Darius Milhaud, etc., etc. Un livre passionnant, alors d'autant plus passionnant qu'il se lit par petits morceaux. Voilà, on peut le feuilleter, ce qui en fait un livre de chevet particulièrement commode. Voilà, donc je vous recommande absolument la lecture de ce livre de Denis Oliven, Dictionnaire amoureux des Juifs de France, et c'est aux éditions Plomb.
Thank you.
Alors, vous avez dû vous demander ce qu'était cet instrument plutôt bizarre. Eh bien, il s'agissait d'un concerto du mouvement, d'un concerto de Haydn, en ut majeur pour deux lyres organisées, avec deux violons, deux altos, violoncelle, contrebasse et deux cors. Alors, qu'est-ce que c'était que la lyre organisée ? Eh bien, c'était un instrument qui était à la fois à clavier, avec des cordes qui étaient frottées par une roue comme la vielle à roue, et un clavier qui commandait des tuyaux d'orgue, des tuyaux en bois. Et donc, c'est une espèce de mélange de vielle à roue et d'orgue, d'orgue portatif, d'orgue, ce qu'on appelle un orgue positif, miniature. Voilà. Et ces œuvres très curieuses avaient fait l'objet d'un disque réalisé par Christophe Coin avec l'ensemble baroque de Limoges et le quatuor mosaïque. Alors, ils avaient joué... bien sûr, tous ces instruments étranges. Alors, il y a la lyre organisée, mais il y avait aussi le baryton à cordes. Et on écoutera peut-être un extrait de ces concertos pour baryton à cordes. Alors là, c'était encore plus extraordinaire comme instrument, puisque c'était un instrument qui avait ce qu'on appelait des cordes sympathiques, c'est-à-dire des cordes auxquelles on ne touchait pas, mais qui vibraient en même temps que les cordes que l'on touchait, sur lesquelles on mettait les doigts et que l'on frottait avec l'archet, et ça amplifiait le son à une époque où on ne connaissait bien entendu pas les microphones. Alors, deuxième livre de cette émission, le dernier livre de Patrick Modiano et de Christian Mazala, ou Mazala, et je ne sais pas comment ça se prononce. 70 bis, entrée des artistes. Alors, pourquoi 70 bis, entrée des artistes ? Eh bien, c'est dans le quartier... Donc, c'est le 70 bis de la rue Notre-Dame-des-Champs. Alors, c'est un morceau du 14e et ça doit déboucher un peu sur le 6e arrondissement. Donc, c'est le cas. C'est Montparnasse. Voilà, c'est Montparnasse. Et donc, Christian Mazalet a exploré tous les gens qui sont passés dans ce quartier, et en particulier au 70 bis de la rue Notre-Dame-des-Champs, et enfin tous les artistes, tous les gens remarquables, et Patrick Modiano a fait les textes, et Christian Mazalet a collationné des photos, des dessins, mais également des coupures de journaux, par exemple le tueur de Santander profiteur de la guerre espagnole entassé son butin à Biarritz, et celui-là aussi a été vu au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs, mais aussi alors il y a tout un tas de gens qui ont été vus, alors des artistes, des peintres, Picasso, mais aussi le vieux Rodin, mais aussi un peintre américain, un couple mixte qui était, et c'était très rare à l'époque, un peintre afro-américain, Henri Osawa Tanner, et sa femme Jessie Olson, une cantatrice d'origine suédoise et écossaise. Ils ont occupé un atelier au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs, car c'est un immeuble dans lequel il y avait des quantités d'ateliers. Alors, après, les artistes vont surtout se transporter beaucoup à Montparnasse, et il y a encore des ateliers à Paris avec des artistes. D'ailleurs, c'est la ville de Paris qui les a aménagés et qui les loue. Et il y en a un qui se trouve rue des Taillandiers à Paris, qui était une ancienne fabrique de meubles. Et puis il y en a aussi près du canal Saint-Martin qui a été aménagé. Alors là, c'était le 70 bis. Donc Thomas Alexander Harrison et Proust qui se sont rencontrés, alors j'ai parlé de Rodin, donc du vieux Rodin, de Picasso, mais aussi Modigliani, mais aussi Renoir, voilà. Et alors Modiano a écrit beaucoup aussi sur Ezra Pound, personnage assez sulfureux et assez bizarre, sur Hemingway, et alors tous ces, sur Eddie Lamar. Alors Eddie Lamar, vous savez, une actrice très connue, qui est venue habiter un moment au 70 bis, qui a fréquenté un peu les peintres du 70 bis. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que Hedy Lamarr a fait des découvertes scientifiques. Elle a mis au point un dispositif électronique qui réduisait le brouillage des signaux radio et guider le lancement des torpilles contre les sous-marins ennemis. Et plus tard, on estimera que cette technologie qu'avait découverte Hedy Lamarr était à l'origine du Wi-Fi, du GPS et de la téléphonie mobile. Mais bien sûr, Hedy Lamarr et Georges Antheil, qui étaient son vieil ami, son compagnon, et qui se désolaient de voir que Ezra Pound était tourné du côté des fascistes, eh bien, Hedy Lamarr, qui était aussi une actrice, bien entendu, très connue, avait séjourné au 70 bis. Voilà, les textes sont de Modiano, ça sent la nostalgie, toujours cette petite musique magnifique, et c'est un livre avec des reproductions, des illustrations, tout ça. Je vous recommande aussi vivement ce très joli livre qui ne coûte que 25 euros. Voilà, ça peut faire un beau livre et ça peut même faire un cadeau.
Thank you.
Voilà, vous avez reconnu bien sûr la suite numéro 2 de Peer Gynt de Edvard Grieg. C'était une sorte de, j'allais dire, de comédie musicale, quelque chose d'assez étonnant qui raconte un peu les péripéties d'un mauvais garçon qui fait des voyages à travers la Norvège et qui, comme ça, arrive à se racheter. Très connu comme musique et très belle musique aussi. Je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine et restez sur RTF 95,4 MHz ou bien sur le DAB+, ou bien sur Internet. Salut à tous, salut à toutes.